Bonsoir à toutes et à tous, c'est vendredi, c'est le club des idées du grain, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Qui a dit que la politique n'intéressait plus les téléspectateurs? En réunissant un peu plus de 12% du public hier soir entre 20h30 et 23h15, les chaînes d'information continue, BFM TV et dans une moindre mesure iTélé, ont rivalisé avec les généralistes. Au programme, il y avait le deuxième débat de la primaire de la droite et du centre, suivi donc par presque 3 millions de téléspectateurs. C'est donc que l'engouement déjà constaté en 2011 ne se dément pas pour cette nouvelle façon de départager les concurrents à l'élection présidentielle. Il faut dire que rares sont les moments finalement où les membres d'une même famille politique acceptent d'exposer ensemble leurs divergences, puisqu'il faut bien en passer par là, pour se distinguer de ses adversaires. Alors depuis le début de la campagne, François Fillon s'évertue à montrer qu'il n'est pas Jean-François Copé, lequel ne doit rien à Nicolas Sarkozy, qu'on ne saurait confondre avec Jean-Frédéric Poisson, qui n'a pas grand-chose en commun avec Nathalie Kosciusko-Morizet, ni même avec Alain Juppé, lequel n'a pas hésité hier à recadrer Bruno Le Maire. Tous différents donc, mais tous pareils, puisque de droite et du centre. C'est donc qu'ils partagent malgré tout l'essentiel de leurs idées. Équation compliquée à gérer. Alors les débats, les confrontations, les programmes sont-ils utiles pour clarifier les positions de chacun? Et était-il vraiment nécessaire de regarder l'intégralité du deuxième débat de la primaire de la droite et du centre hier soir, alors qu'à la même heure il y avait Impitoyable sur France 3? C'est la question extrêmement concise que j'ai choisi de poser ce soir à nos quatre membres du club. Question un petit peu farfelue, mais dans la mesure où on en discutait justement hors antenne, qu'ils ne répondent finalement pas si souvent que ça aux questions que je pose, on peut se permettre quelques libertés. Les quatre membres, ce sont Ludivine Bantini. Bonsoir.
Bonsoir.
Historienne, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Rouen. Philippe Manière, bonsoir.
Bonsoir.
Dirigez le cabinet de conseil en stratégie Footprint Consultant. Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
Producteur de La Suite dans les idées sur France Culture chaque samedi à 13h30. Ce sera qui demain?
Léonora Miano.
Et Sylvain Kahn, bonsoir.
Bonsoir.
Historien et géographe, professeur à Sciences Po. Alors, y avait-il de bonnes raisons de regarder ou de ne pas regarder le débat d'hier soir? Seule l'une d'entre vous, mais je ne dirai pas qui, a bien fait ses devoirs hier. Les autres avaient d'excellentes excuses. Petite question, avant d'écouter un petit extrait de ce qui a été dit hier soir. Est-ce que certains parmi vous ont prévu d'aller voter les 20 et 27 novembre prochains pour cette primaire?
Oui.
Oui, Sylvain Kahn.
Moi, j'ai prévu d'aller voter, en tout cas, le deuxième tour. Alors, en même temps, il reste 3 semaines, hein, c'est-à-dire je peux encore changer d'avis. Mais ça fait 6 mois que j'y pense, et un jour, j'ai découvert qu'il y a plein de gens qui y pensaient aussi. Enfin, Sylvain... je veux dire, plein de gens de gauche, quoi.
Sylvain Bourmeau.
Exactement pareil, ça fait très longtemps que j'y pense. J'attends de voir. Au deuxième tour, certainement. Au premier tour, je ne prendrai pas la peine de me déplacer, mais je ferai en sorte de voter au deuxième tour si, d'aventure, les sondages qui valent ce qu'ils valent, mais enfin qui nous donnent des informations, nous indiquent telle ou telle chose.
Philippe Manière et Ludivine Bantini.
Oui, moi je pense y aller. Je n'aime pas devoir dire que j'adhère aux valeurs d'une famille politique. Sinon, j'irai voter très volontiers à la primaire de la droite et à la primaire de la gauche. Je trouve pas que ce soit très confortable intellectuellement ni moralement, mais je pense que c'est bien d'aller voter à cette primaire pour une raison, c'est que théoriquement, c'est la droite qui devrait gagner le pouvoir, donc autant contribuer à désigner le candidat de droite qui paraît le moins mauvais.
Et le fait que deux personnes qui, a priori, se revendiquent plutôt de la gauche décident d'aller voter à cette primaire, c'est quelque chose qui vous gêne, Philippe Manière?
Pas du tout, parce que moi, je me revendique pas plus de droite que de gauche, et chacun fait ça en conscience.
Un petit peu plus quand même.
Non, franchement, enfin, historiquement, je connais mon vote et je peux vous dire que j'ai voté aussi souvent à gauche qu'à droite. Mais je trouve que c'est embarrassant d'aller voter aux deux parce qu'on nous demande chaque fois de signer quelque chose comme quoi on adhère aux valeurs d'une famille et on peut pas adhérer aux deux. Enfin, ça paraît pas totalement raisonnable et je trouve que c'est bien dommage parce que sinon je voterais volontiers aux deux.
Ludivine Bantini.
Non, c'est vrai, je privilégie mon ce que Philippe appelait le confort éthique et politique.
Le fait d'avoir regardé l'intégralité du débat hier soir ne vous a pas fait changer d'avis?
Elle m'a plutôt conforté dans ce choix.
Vous avez passé une bonne soirée, au fait?
Non, alors vous m'avez infligé, je vais essayer de le dire sans trop de grandiloquence, hein, mais vous m'avez infligé une souffrance. Voilà. Non, mais je le dis en fait finalement très, très sérieusement. C'est-à-dire que j'ai trouvé que, alors même que les commentateurs sur BFM TV, hein, c'est là que j'ai regardé ce débat, estimait et allait tous et toutes dans la surenchère sur le fait que c'était donner une bonne image de la politique. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment catastrophique et j'aimerais pouvoir, au cours de cette émission, revenir sur les raisons. Et je voudrais dire que pour entendre de nombreux débats dans le monde, par exemple, du travail, écouter des salariés, des personnels hospitaliers, des personnels enseignants, des sans-papiers qui parlent de leur travail, écouter des écologistes qui sont dans des zones à défendre, écouter des gens sur des places occupées qu'on dénigre en considérant que ce sont des pantins politiques. Moi, je trouve que c'est vraiment là qu'il y a de magnifiques débats politiques. Et je pense à ce qu'avait dit Anne Hidalgo à propos des places occupées, qui considérait que c'était un scandale de s'emparer ainsi de l'espace public. Moi, je pense que ça aurait valu la peine, vraiment, qu'on donne autant d'importance à ces débats qu'à celui qui nous est diffusé sur les plus grandes antennes.
On va prolonger d'une minute vingt votre souffrance, Ludivine Pantini.
Le 20 novembre, choisissez le candidat qui correspond le mieux à vos aspirations. Choisissez la détermination sereine, choisissez la rigueur, choisissez l'honnêteté.
Pendant 5 ans, pas un an de plus, je mettrai toute mon énergie à faire ce que j'ai dit. Et c'est pourquoi ce soir je leur lance un appel à la fois amical et pressant. Faisons-nous confiance pour remettre la France sur le bon chemin, le chemin de la paix civile et le chemin de l'espérance française.
Je connais le poids de la fonction. Je n'aurai pas besoin d'une période probatoire. J'ai l'énergie, j'ai la volonté, je sens que je peux relever ce défi.
Oui, il y a un risque que notre primaire soit polluée par l'extrême droite et il y a un risque que le prochain mandat présidentiel soit empoisonné par l'extrême droite. Nous avons besoin d'un puissant contrepoison. Je vous invite à un vote antidote.
Il faut proposer une vision. Et moi, je pense que cette vision, elle tient en un mot, bâtir une France décomplexée. Une France décomplexée, c'est une France qui remonte à cheval, comme Zorro.
Le danger, ce serait que nous gagnions les élections de 2017, mais qu'une fois de plus, nous ne modifions pas suffisamment le cadre de l'action pour que les réformes à engager soient efficaces.
La mission du prochain président de la République sera de redonner du sens à ce que c'est que la nation française. C'est ça aussi qui est au cœur de ce combat culturel. Moi, je demande juste à nos téléspectateurs d'imaginer, en mai 2017, qui sera le mieux à même de porter ce combat culturel et de faire rêver nos enfants.
Voilà, bon, pour pas qu'il y ait de jaloux, on a mis évidemment l'ensemble des candidats de cette primaire de la droite et du centre qui s'exprimaient hier soir à la télévision. Tiens, d'ailleurs, peut-être déjà sur le terme, sur l'appellation de cette primaire, Sylvain Bourmeau, de la droite et du centre. Est-ce que vous considérez qu'elle porte bien son nom par rapport à ce que vous avez pu entendre depuis le début de cette campagne ?
La question du périmètre des primaires est posée pour cette élection de 2017, parce qu'au fond, elle est posée aussi à gauche. Le Parti Socialiste a tenté d'organiser, comme la dernière fois, une primaire qui dépasse les simples frontières de son organisation, avec du mal. À droite, c'est la même chose. Maintenant que la droite est réunie à l'intérieur d'un seul et même parti, ce qui, peut-être on y reviendra d'ailleurs, pose un gros problème, parce que autrefois, enfin on a quand même un mode de scrutin, on n'en a pas changé, hein, qui est le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Et il n'y a pas beaucoup de lois dans la science politique, mais il y en a une que même les anglo-saxons connaissent, qui s'appelle la Duverger's Law, hein, qui est la loi des effets des modes de scrutin, et je pense qu'elle est encore valable. C'est-à-dire que Duverger avait montré très très bien en son temps que ce scrutin uninominal majoritaire à 2 tours a tendance à produire ce qu'on appelle un quadri-bipolaire, c'est-à-dire une répartition de la vie politique entre la gauche et la droite d'un côté, mais à l'intérieur de chacun des camps, entre 2 partis. Donc il y avait le Parti communiste français et le Parti socialiste d'un côté, puis il y avait l'UDF et le RPR à l'époque. Ça a très bien marché longtemps. Sauf que le Front National a surgi, est venu contester ce leadership, et au fond l'UMP l'a aidé en se réunifiant et en tentant de réunir la droite et le centre, pour répondre à votre question, Hervé. Et du même coup, a laissé la place au Front National. On voit qu'il est en train de se reconstituer quelque chose comme un pôle autour de Jean-Luc Mélenchon et peut-être avec le Parti communiste français, on saura ça dans quelques heures maintenant, et puis évidemment le Parti socialiste. Les écologistes, on a vu, on a parlé avec grandiloquence de primaires, on a eu moins d'électeurs qu'il y en a à une élection cantonale. Hein. Là, on va parler des primaires de la droite, ça va être 3 millions de personnes, comme ça a été le cas pour la gauche en 2011. Donc on ne parle pas du tout les mêmes choses derrière ces mots primaires, il faut faire attention à ce qu'on désigne. Donc ce que je veux dire, c'est que On est face à une recomposition de la vie politique qui, en fait, est dont le moteur est la poussée du Front National. Et je pense que les propos les plus pertinents de ce qu'on a entendu, hein, du résumé d'hier soir, sont à ce sujet. Encore une fois, ce débat a été la preuve que le parti qui produit l'agenda politique, qui structure même la compétition politique en France, au-delà même des idées, c'est ce Front National.
Philippe Magnard.
L'appellation primaire de la droite et du centre, au moins, ça permet de dissoudre une espèce d'équivoque. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de centristes qui ne se reconnaissent pas là-dedans. Et il y a des centristes qui sont hors primaire, j'allais dire, hein, évidemment.
Et puis, qui ne sont pas très représentés parmi les candidats.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que le centre, pour la raison d'ailleurs qu'a évoqué Sylvain, le centre n'a jamais réussi à jouer le rôle qu'il joue, par exemple, en Allemagne. Je me rappelle avoir eu cette conversation avec Jean-Louis Bourlange. Le centre ne s'est jamais allié en France qu'avec la droite. En Allemagne, le FDP s'est allié alternativement avec la CDU-CSU et avec le SPD. Donc il est effectivement au centre, puisqu'il est capable de s'allier avec la gauche ou avec la droite.
Le mode de scrutin rend possible.
Bien sûr. Alors en France...
C'est ce qui a été reproché d'ailleurs à François Bayrou. Oui. Aujourd'hui, on le dit, voilà, c'est le traître de 2012, puisqu'il avait appelé à voter Hollande.
C'est plus compliqué que ça. Toujours est-il qu'en France... sociologiquement, historiquement et mécaniquement, le centre n'existe que parce que la droite le veut bien. Dans les circonscriptions où le centre est élu, c'est généralement parce que la droite n'a pas envoyé de concurrent face au centre. Donc, il y a une espèce de fiction que le centre est autonome, qui est en fait dissoute par cette appellation assez nouvelle de la droite et du centre, qui encore une fois ne recouvre pas complètement la question, puisqu'il y a des centristes qui ne jouent pas le jeu de la primaire, et il peut y avoir des candidats centristes en dehors, et il y a des tas de centristes qui se sentent pas du tout concernés par ce sujet. Mais au moins, quand on dit la droite et le centre, on acte cette réalité qui a longtemps été dissimulée, que le centre n'a pas d'autre existence que celle que la droite veut bien lui laisser avoir. Donc ça me paraît un point important. On y reviendra sans doute, je veux juste dire que je ne suis pas complètement d'accord avec Sylvain sur le fait que ce soit le Front National qui fasse l'agenda de tout l'échiquier politique. Je pense qu'il y a une évolution de la sociologie et des attentes de la société, qu'on peut trouver bonne ou pas bonne, qui se traduit pour partie dans l'existence et le renforcement du Front National, et qui se traduit aussi par des évolutions, et des évolutions en particulier de la programmatique des autres partis, mais ça n'est pas forcément uniquement pour copier le Front National ou parce que le Front National le pousse à le faire que tel ou tel candidat d'un autre parti devient plus sensible à un certain nombre de thèses qu'on entend par ailleurs de longue date au Front National.
Sylvain Kahn.
Mais c'est surtout la comparaison que faisait Philippe avec l'Allemagne est très éclairante. Dans le système de la Ve République, il n'y a pas de place pour une existence politique d'un parti du centre structuré et structurant. En raison de l'élection présidentielle qui est extrêmement bipolaire et surtout en raison du scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Donc moi je pense que c'est un espèce de tour de passe-passe, c'est-à-dire on fait la primaire de la droite et du centre pour permettre aux centristes de se dire qu'ils existent alors qu'en réalité ils ne peuvent pas avoir d'existence politique institutionnelle. Je pense qu'on fait cette primaire pour éviter à la droite son habituelle querelle des égos qui fait que, depuis 1974, au premier tour de l'élection présidentielle, il y a toujours eu des duels fratricides entre des gens qui... En 1974, il y avait peut-être une grosse différence entre
Jacques Chaban-Delmas,
Valéry Giscard d'Estaing. Quoique, peut-être il y en avait plus en 81, entre Chirac et Giscard, mais grosso modo, il s'agit surtout d'éviter ça. Bon, voilà. Et moi, ce que je trouve très inquiétant, c'est que aujourd'hui, la Ve République, ça marche plus. C'est-à-dire, on se retrouve avec un président élu, quelle que soit sa couleur politique, dont la base électorale et dont la majorité ne peut pas représenter plus de 30% des électeurs au premier tour. Et encore, 30%, c'est le bout du monde.
Justement, le processus des primaires ne peut pas contribuer à redonner davantage de légitimité,
non,
justement.
Comment dire ? Je pense que c'est une cautère sur une jambe de bois. C'est-à-dire, on organise des primaires pour qu'on puisse se dire, finalement, le type ou la femme, mais là, ça sera encore que des types, qui va être élu avec entre 20 et 28% des voix au premier tour, ce qui est minable, aura une vraie légitimité. Et c'est faux. Et pareil avec l'élection du Parlement, avec le tour de passe-passe du scrutin uninominal majoritaire à deux tours, on se retrouve avec une majorité parlementaire écrasante, un seul parti éventuellement un et demi, qui a la majorité à lui tout seul, alors qu'il a fait à peine 25% des voix. Et après, on s'étonne que... aucun gouvernement ne parvienne à faire passer un programme. Il faut absolument acter qu'on fait des coalitions gouvernementales. Et il faut supprimer l'élection présidentielle. Enfin, ça tient plus debout, ce truc.
Ludivine Brantini, donc sur cette question de la primaire de la droite et du centre, par rapport à ce que vous avez entendu, vous, est-ce que vous diriez qu'il aurait peut-être été nécessaire de la rebaptiser, cette primaire, pour être plus près de quoi? Alors, ça serait davantage la primaire du centre, par exemple?
Non, moi je pense que, pour revenir un peu sur ce qui a été dit à propos de la place du Front National, je pense que, aussi bien dans ces primaires que dans le petit milieu de cette vie politique française-là, petit milieu, je pense, hein, il faut y insister. D'ailleurs, Sylvain Kahn en parlait à l'instant, 28%, voilà, 28% des suffrages exprimés. Hein. Donc, il faudrait en reparler de manière absolue. Bon, dans ce petit milieu, les idées du Front National ont gagné. C'est-à-dire, en tout cas, ces thématiques. Et je pense qu'il serait intéressant, il aurait été intéressant de pouvoir comparer des propos tenus dans la primaire de la droite et dans la primaire du Parti Socialiste.
Quel type de propos, par exemple, sur la sécurité,
sur l'autorité, sur l'identité, sur les quartiers associés à des mosquées et à un ennemi intérieur. Et puis toutes ces petites phrases, parce que vous avez eu raison de proposer ce florilège, moi j'en avais noté d'autres, parce que en fait ces phrases-là, on les retrouve partout dans ce petit monde politique, aussi bien là, dans ce cadre, la primaire de la droite et du centre, en fait, je ne veux pas trop rentrer dans ce débat sémantique qu'au Parti Socialiste, c'est-à-dire l'esprit français, l'ingéniosité française, certains ont même fait du Jean-Jacques Goldman, aller au bout de ses rêves, réparer notre pays, il faut avoir le courage des réformes.
Hein, mais Goldman, c'est pas faire le jeu du Front National.
Non. Ah bon. C'était une ironie. Hein.
D'accord.
Non, je sais plus lequel a dit ça. Je crois que c'est Juppé ou Fillon. Enfin, à vrai dire, il y a un moment, je les confonds. Excusez-moi, hein, c'est pas très sérieux. Mais quelqu'un a dit il faut réparer le pays pour que chacun puisse aller au bout de ses rêves. Enfin, mais ce sont des gens qui ont gouverné. D'ailleurs, ça a été un des petits enjeux un peu mesquins, il faut le dire, du débat. C'était de dire quand les uns faisaient la surenchère en disant mais vous êtes vieux, comme Bruno Le Maire, vous avez gouverné en 93, vous la Dream Team de 93, Fillon, Juppé, Sarkozy. Sarkozy avait beau jeu de répondre à Bruno Le Maire qu'il avait été son ministre et qu'il aurait même bien aimé être son Premier ministre. Il avait également beau jeu de dire à Nathalie Kosciusko-Morizet qu'elle avait été sa porte-parole. Enfin voilà, de petites choses, à mon avis, de petites choses, et aussi des mots de passe que l'on entend un peu partout et qui montrent un certain vide abyssal. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques propositions qui ont des thèmes. Comme Nathalie Kosciusko-Morizet qui propose une redevance sur le halal. Voilà. Bon, c'est à peu près la seule proposition politique que j'ai entendue. J'ai entendu aussi quand même qu'il fallait faire travailler... Allons-y, on peut
Sur la question de la légitime défense, sur le fait, par exemple, d'avoir une présomption de légitime défense pour les policiers.
Fait, voilà. Par exemple,
je ne commente pas cette proposition, je dis simplement qu'elle a existé.
Oui, mais je peux en citer 3 ou 4, c'est vrai. Par exemple, faire travailler les enseignants plus longtemps, avoir moins d'enseignants et les faire travailler davantage. Voilà. Mais ce sont des choses qui sont le patrimoine commun de ce petit monde politique-là.
Un vide abyssal s'agissant des propositions qui sont faites aujourd'hui dans le cadre de cette campagne à droite. Sylvain Bourmeau.
Moi, il y a un autre vide abyssal dont je voudrais parler. C'est quand même, parce que là, on est dans un contexte où tous les journalistes de France et de Navarre, depuis 15 jours maintenant, tweetent, et moi compris, je soutiens iTélé. On fait comme si tous les journalistes faisaient le même métier. Or, juste avant ce débat, hier, Le Monde, qui n'est pas le moindre des journaux en France, faisait son titre immense à sa une sur les liaisons dangereuses de la Sarkozy. Mediapart publiait dans le même temps et faisait sa manchette un article sur les liens entre Nicolas Sarkozy et l'intermédiaire Monsieur Djouri, qui publiait des informations qui étaient complémentaires de celles du Monde. Et tout ça n'a pas existé hier dans le débat. De la même façon que n'a pas existé les problèmes liés au dépassement, au doublement même des dépenses de campagne à la précédente élection à laquelle a participé Nicolas Sarkozy. Je voudrais dire ça parce que, justement, tous les journalistes ne font pas le même métier. Hier, Le Monde ou Mediapart ont développé une certaine conception du journalisme qu'on n'a pas vue à l'œuvre auprès des animateurs de ce débat et qu'on n'a même pas vue à l'œuvre parmi les autres candidats.
Oui, parce que j'allais me dire, c'était aussi de la responsabilité des autres candidats.
Bien sûr, et ça me permet de répondre et d'expliquer pourquoi. Enfin, je vous ai répondu, Hervé, tout à l'heure, en expliquant que j'allais participer à cette primaire de la droite. Si je vais participer à cette primaire de la droite, c'est précisément pour cette raison. C'est-à-dire, c'est pour barrer la route à quelqu'un qui, à mon sens, n'a pas la légitimité pour participer à cette compétition électorale. Et je suis prêt pour ça à avaler toutes les chartes que vous voulez de valeurs dont je me contrefiche. C'est-à-dire que ce qui me paraît important, c'est de barrer la route à quelqu'un après la lecture du Monde d'hier, après la lecture de ce que le Conseil constitutionnel a pu dire, après la lecture de ce que la justice dit. Et que ses adversaires, que je vais devoir aider pour barrer la route à ce monsieur, ne prennent pas la peine de faire en sorte qu'il ne puisse pas participer à cette compétition, je trouve que ça dit quelque chose de très préoccupant de l'état de notre démocratie. Et qu'il n'ait pas été question hier soir de cette situation qui fait la une du plus grand journal français, je trouve ça juste aberrant.
Philippe Magnard.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Sylvain. Cependant, ça n'est pas une pathologie récente en France. C'est-à-dire que dans toutes les autres grandes démocraties, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne ressortit pas à quelques dégradations des pratiques ou de la conception de la politique qu'on aurait pu observer récemment. Il y a en France quelque chose de très bizarre qu'on ne retrouve pas dans les autres grandes démocraties qui ont le même âge, la même respectabilité. C'est que quand un scandale éclate, même s'il est relayé par les juges, ce qui n'est pas toujours le cas, il finit toujours par ne pas être relayé suffisamment par les médias. Et en tout cas, si les médias, ce qui devient une hypothèse assez forte, et les juges l'ont relayé, s'en sont saisis, ça ne se traduit pas forcément par la moindre déconsidération dans l'électorat. C'est, à mon avis, très très mystérieux. Mais c'est un peu comme si les Français s'interdisaient de juger les gens, les candidats, sur ce type de sujet. Alors, ça peut être une hypothèse très démoralisante, c'est un peu ce qui se passe en Italie. Moi, beaucoup d'Italiens m'ont dit ça. Oh, tu sais, ils sont tous pourris, donc on va pas s'intéresser à ça. C'est pas discriminant, en quelque sorte. Donc, comme c'est pas discriminant et qu'il s'agit de choisir quelqu'un, on va pas s'arrêter sur un critère non discriminant, donc on oublie ça et on passe à la suite. Il y a aussi quelque chose qui, probablement, renvoie à quelque chose qu'on a déjà évoqué lors de précédentes émissions, qui est la vision un peu monarchique de la République française. Et moi, je me souviens précisément d'un certain nombre de cas où, quand un journaliste sur le plateau interrogeait un candidat sur ce type de sujet, on sentait autour une réprobation, qu'on était d'ailleurs, curieusement, parce que nous sommes tous Français, pas loin de partager. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette interrogation, je crois que c'était Gisbert, à l'époque, il avait interrogé Chirac sur la maison de la rue Couette-le-Gond. Vous savez, il y avait dans les HLM de la ville de Paris, avec des HLM, plus une maison qui servait apparemment au plaisir du bon prince. Eh bien, il y avait, quand il a posé cette question, une forme de réprobation. Donc, il y a quelque chose de tabou sur ce sujet-là en France, pas plus cette fois que les autres, me semble-t-il. Mais enfin, c'est vrai que c'est problématique.
Cela dit, à la décharge de nos confrères et de nos consoeurs qui interviewaient hier les différents candidats, c'était quand même pas la configuration.
Mais bien
la
sûr, plus alors, simple.
Il aurait fallu être en face à face avec Nicolas Sarkozy, puisque c'est
j'allais venir très brièvement. Voilà, il ne faut pas oublier
avoir
non 7 plus
personnes en face de soi. C'est exactement ce que
j'allais dire, Hervé, parce que je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un exercice qui est le fruit d'un accord entre les différentes écuries. Et cet accord ne fait que les journalistes sont cantonnés à ce sur quoi on s'est mis d'accord.
Ils ne sont plus journalistes,
ils sont poseurs de questions, ils le font plutôt bien, mais dans un domaine qui est limité, ce qu'on peut contester, c'est une autre question. Alors cela dit, je voudrais quand même finir là-dessus, puis après je vous rends la parole, Hervé, mais malgré tout ce qu'on vient de dire, moi je pense que c'est tout de même mieux qu'il y ait des primaires, avec toutes les déficiences, toutes les limites qu'on vient de dire, que s'il n'y en avait pas. D'ailleurs,
pourquoi c'est quand
rappelez-vous,
même
la première fois qu'on en a eu, c'était la gauche en 2007. Moi, je trouve que c'est un exercice utile. C'est-à-dire que les gens
les écologistes
disent un peu ce qu'ils ont. Naturellement,
d'ailleurs.
Il y a des postures. Naturellement, on n'entend pas tout ce qu'on aurait envie d'entendre au fond. Mais malgré tout, on peut les comparer. On les entend se défendre. Et je pense que ça éclaire le débat public insuffisamment, imparfaitement, mais ça l'éclaire.
Il y a un travail de clarification qui est fait à travers cette campagne, Sylvain Kahn.
Oui, mais je trouve aussi que ça l'éclaire en creux. C'est-à-dire on voit bien tout ce dont les candidats à la primaire ne parlent pas. Moi, par exemple, une question que j'aurais envie de poser, mais ça vaut pour les candidats de la primaire de droite comme de gauche ou les écolos, c'est, ok, tout ça, c'est très bien, il n'y a qu'à Foucon, parce que même si c'est très étudié, très argumenté, que c'est validé par des instituts divers et variés, n'empêche que quand on exerce le pouvoir, c'est une autre phase, c'est autre chose. C'est-à-dire que telle ou telle réforme, le jour où il y a les bonnets rouges, Juppé, il fait quoi ? Hein ? C'est ça les questions. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on explique un programme de gouvernement pour la réforme pour 5 ans, il faut penser au pays réel. Hein ? Il ne faut pas simplement faire les choses à travers des tableaux de chiffres.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au-delà des programmes, il faut aussi expliquer quelle sera la méthode de gouvernement, c'est ça ?
Oui, on peut parler de méthode.
Ils le font
mais
un peu quand ils parlent d'ordonnance ou quand ils parlent de
oui, mais
référendum,
justement,
à tort ou à raison, mais ils le font quand même. Hein.
Oui, non, mais voilà, mais ordonnance et référendum, j'ai envie de dire, c'est des outils. Mais concrètement, je veux dire, et Juppé est très bien placé pour le savoir, en 1995, quand il s'est retrouvé avec une immense grève quasi générale, avec 2 millions de personnes qui arrêtaient de travailler, qu'est-ce qu'il a fait? Comment on fait? C'est ça la vraie question. Et du coup, moi, ce qui me manque beaucoup dans ces débats, même si par ailleurs, ça m'intéresse, c'est pas la question. Ça m'intéresse parce que la politique m'intéresse. Mais moi, ce qui me manque beaucoup, c'est qu'est-ce que ces candidats ont à dire de ce qui se passe, disons, dans la société ou dans la société civile. Qu'est-ce qu'ils ont à dire face, je ne sais pas moi, aux gens qui essayent de mettre en œuvre des nouvelles manières de faire de l'économie, des nouvelles manières de gagner de l'argent, des nouvelles manières de produire. Qu'est-ce qu'ils essayent de mettre en œuvre face aux gens qui vivent vraiment le chômage? Vous voyez, c'est-à-dire, j'ai quand même l'impression que depuis 30 ans, on a toujours, en gros, il y a une boîte à outils un peu de gauche, une boîte à outils un peu de droite, une boîte à outils de gauche radicale, une boîte à outils de droite extrême, mais c'est comme si la société réelle, eh bien, les gens qui nous parlent de leur boîte à outils, ils ne s'intéressaient pas à ce qu'ils font, et ils ne vont pas regarder ce qui se passe, alors que c'est peut-être là que ça pourrait leur donner des idées.
Et pourtant, on n'a jamais autant entendu les représentants politiques parler de la nécessité de renouveler et le personnel politique et l'exercice de la politique.
Bah oui, mais ils ne le font pas.
Ludivine Montigny ?
Oui, non, mais je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit par Sylvain Kahn. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de sujet véritablement. Et c'est vrai que c'est du spectacle. Il suffit de se pencher un peu sur la manière dont les commentateurs, encore une fois, évoquent ce débat. C'est-à-dire, qu'est-ce qui était au-dessus ? Un tel n'était pas sympathique, un tel était un agent d'ambiance, une telle a lâché ses coups, etc. C'est purement formaliste. Et par rapport justement au journalisme, moi j'ai été choquée par exemple que Ruth Elkrieff pose une question sur l'enseignement en parlant du mammouth. Hein, donc voilà, comment vous allez faire pour faire bouger le mammouth, etc.
Alors, que quand les journalistes... on est en direct, on maîtrise pas toujours son vocabulaire.
Non, mais c'est une question qui est profondément politique dans sa formulation. C'est déjà une manière d'orienter le débat. Bon, j'ai été choquée aussi que des choses qui circulent sur des sites internet de type français de souche, qui sont reprises par des gens comme Elisabeth Lévy ou Causeur, par exemple sur le fait que la déchéance de nationalité soit une mesure du Front Populaire, ce qui est une erreur historique monumentale, que cette chose-là puisse être diffusée encore par François Fillon hier, sans qu'il y ait la moindre interpellation. Mais au-delà, hein, ce qui est frappant, par exemple, il a été un moment question de politique étrangère, donc on a un peu parlé, parce que c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui a mis les pieds dans le plat, on a un peu parlé de l'Arabie Saoudite, et tout de suite la boîte de Pandore s'est refermée parce que Sarkozy a dit, il faut connaître les dossiers, etc. Et donc ça, c'est silence radio, si j'ose dire.
C'est un gros sexiste, au passage.
Ah oui, bah, de toute façon, il a été. Non, mais il a donné des leçons.
C'était assez condescendant, on va dire.
Comme par hasard, au moment où c'est la seule femme qui parle, clac,
De toute façon, c'était le cas à chaque fois qu'il s'agissait.
Il a fait le même reproche à plusieurs hommes, quoi.
Oui, il l'a fait. Mais c'est-à-dire que, par exemple, on n'en saura pas plus sur les liens réels avec un régime qui est.
Alors, Kevin, vous ne pouvez pas espérer un instant que ce genre de débat donne lieu à des révélations.
Non, mais je ne l'espère pas.
Et sincèrement, je ne veux pas donner l'impression que je veux exonérer qui que ce soit de toute responsabilité, parce que c'était franchement faible tout ça, on peut le dire et on peut le plaider hier en renvoyant au débat de la primaire de la gauche qui a quand même introduit la primaire en France, mais le débat de la primaire de la gauche en 2007 n'était pas plus riche, parce qu'encore une fois c'est des postures, il y a des règles du jeu, mais on voit quand même un peu les personnages, c'est pas sans importance que les électeurs voient si quelqu'un se bat bien ou pas, s'il a du fond ou pas, mais ça, c'est pas absurde.
C'est la question qui est soulevée y compris dans ce club, c'est-à-dire ce que vous avez appelé vous-même la dimension monarchique de cette supposée République française, c'est-à-dire une personnalisation. Et alors, du coup, on n'a plus que ça en tête, qui est le meilleur, qui est au-dessus, etc.
C'est une vision extrêmement étriquée
du politique.
Vraiment. Sylvain Bourgeois. Alors, je vais reprendre l'argument de Philippe Manière, ça n'a absolument rien de nouveau, hélas, en France. C'est-à-dire que le journalisme politique, moi j'aime bien l'écrire en un mot, le journalisme politique, c'est quelque chose qui est... qu'on trouve qu'en France à ce niveau-là. C'est-à-dire, ce journalisme fait comme du commentaire hippique, comme des juges de patinage artistique. Vous savez qu'on a le petit panneau pour la note technique et la note artistique. Il suffit d'ouvrir un journal britannique pour se rendre compte que c'est pas du tout comme ça qu'on parle de politique.
On en parle comme en Grande-Bretagne.
Mais on s'intéresse bien davantage aux politiques publiques. On laisse une large place aux rapports d'évaluation produits par beaucoup d'ONG, par des associations, par des syndicats, par tout type de
organisations,
ou des institutions, etc., qui sont la source première de l'information politique et non pas les partis politiques. Et quand les partis politiques font campagne, ils font des conférences de presse tous les jours, secteur par secteur, et les journalistes repartent avec des documents, avec des annexes chiffrées de 150 pages pour leurs propositions. Je veux dire que le débat politique est autrement organisé et la responsabilité est très partagée en France entre le monde politique et les journalistes politiques, en un mot. La chose intéressante, et c'est ce qui s'est passé avec le livre de Davé et l'Homme, à mon avis, c'est que là, on a vu des journalistes tout court s'emparer de la politique. On voit ce que ça donne.
C'est-à-dire des journalistes livre à base de confidence de François
Hollande. Voilà, les journalistes politiques sont des journalistes qui, quand ils ont une information, la gardent, parce qu'ils préfèrent la garder pour bien montrer qu'ils sont fiables, et donc ils pourront en avoir une deuxième la semaine d'après. Éventuellement, ils pourront sortir une petite information. Un journaliste, quand il a l'information, il la publie. Et donc, un journaliste tout court, je pense qu'il est grand temps que les journaux confient la politique à des journalistes tout court. C'est en train de se produire, d'ailleurs. Je trouve que les services politiques des journaux sont en train d'évoluer plutôt dans le bon sens. Mais c'est très lent. Et donc, ce qu'on a vu hier, c'est un spectacle. Je voudrais quand même redire à quel point moi aussi je suis d'accord avec l'idée que les primaires c'est une bonne chose. Parce que de toute façon, le spectacle, on va pas en sortir comme ça. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que ça casse un petit peu cette logique monarchique de la Ve République. Qui joue cette logique monarchique de la Ve République? Jean-Luc Mélenchon. Il est candidat de droit divin. Il n'y a pas plus Ve République, il n'y a pas plus Général de Gaulle que Jean-Luc Mélenchon dans cette élection. C'est incroyable. Il veut même pas avoir le courage, au fond, de dire, bah oui, moi, je suis le plus fort à gauche. Je vais aller battre les autres à gauche. Je vais battre Montebourg, je vais battre Hollande, je vais battre tout le monde. Parce que, à gauche, personne n'est plus fort que moi.
En même temps, ça multiplie les moments de spectacle que vous dénoncez.
Ça multiplie les moments d'échange et de débat, à charge pour les journalistes qui les organisent, à charge pour les journalistes qui les commentent, de ne pas les commenter comme du spectacle et d'attendre de ces moments-là de véritables débats, à charge pour eux de les évaluer correctement.
Ça casse la logique monarchique, oui et non. Oui, effectivement, dans le sens où on a l'impression qu'il y a une arène et qu'on peut choisir des individus, mais non, dans le sens où, à mon avis, ça démultiplie le combat des chefs. C'est-à-dire que là, encore une fois, je pense que la meilleure analyse qui a été faite, enfin, je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, la plus parlante ou une des plus savoureuses qui a été faite de l'élection présidentielle française, c'est le combat des chefs de Goscinny et Uderzo, qui a donc été l'une des bandes dessinées d'Astérix et Obélix de la grande époque. Alors, effectivement, encore une fois, moi, je trouve ça super qu'on puisse se rassembler autour du débat politique. Mais ça dépend quand même pour quel contenu. C'est-à-dire qu'il y a quand même un côté élection, non pas de Miss France, mais de Mister France. On choisit le plus beau, celui qui a le moins de tics, celui qui dira le plus ou le moins de fois le mot France. Et pendant ce temps-là, encore une fois, on compare des mesures techniques. C'est-à-dire, est-ce qu'on va augmenter la TVA de 2 points? Est-ce qu'on va la baisser d'un point? Est-ce qu'on va augmenter l'ISF? Est-ce qu'on va supprimer l'ISF? Et pendant ce temps-là, il n'y a pas vraiment, en tout cas pendant les débats en question, de vrais débats sur quels sont les problèmes qu'il faut traiter. Alors c'est très bien, je trouve, là, et nous y participons, nous, avec vous, Hervé, ce soir, c'est très bien, on va dire, de contribuer au débat politique et de parler de politique, mais en même temps, je sais pas comment dire, moi des fois je me dis, toute l'énergie qu'on met tous ensemble à regarder ces débats et à les commenter, et moi je le fais bien volontiers, c'est aussi de l'énergie qu'on ne met pas dans comment est-ce qu'on peut réfléchir à résoudre un certain nombre de problèmes et à avancer sur un certain nombre de solutions.
Est-ce que malgré tout, dans toute cette campagne, dans tous ces débats, vous n'avez pas vu émerger, si ce n'est des propositions très concrètes, mais en tout cas au moins des idées qui permettent de distinguer cette famille politique des autres et de dire, ben voilà, aujourd'hui, voter pour un candidat qui sera issu de cette primaire de la droite, c'est aussi adhérer à certaines valeurs qui ne sont pas exactement les mêmes que celui qui émergera de la primaire à gauche, par exemple Philippe Manière.
Si, moi je crois... Encore une fois, c'est du spectacle et c'est inévitable. Et comme il y a une compétition, puisqu'il faut désigner un vainqueur parmi des candidats, enfin, faut pas non plus nier l'évidence. Comme il y a une compétition, il y a forcément un spectacle et il y a des gens qui regardent et qui donnent des points. C'est pas insensé. Il faut pas qu'il y ait que ça, mais c'est pas insensé. Alors maintenant, les politiques publiques, c'est pas dans ce type de débat qu'on les voit débattus, chacun une minute. Enfin, vous imaginez bien que si vous voulez remettre à plat le RSA, rendre compatible le travail, etc., comparer les problèmes de chômage de la France avec celui de ses voisins, enfin, pour ça, il y a d'autres émissions. La semaine dernière, il y avait Fillon, puis avant, il y en a eu d'autres à droite qui planchaient et qui ont 2 heures avec 3 ou 4 journalistes, des gens qui viennent, des témoins qui viennent d'ailleurs. Donc là, on peut parler politique publique, il y a un peu plus de temps. On n'en parle sûrement pas assez. Ça existe, ça se fait. Ce format-là ne s'y prête pas. En revanche, revanche, si on est intéressé par tel ou tel candidat, vous allez sur leur website, vous lisez, je crois que c'est Bruno Le Maire qui fait un truc de 900 pages.
Autant vous dire, 1000 pages, je crois. Mais, voilà,
bon,
voilà.
Donc, il y a par ailleurs.
Il y a l'Institut Montaigne qui propose aujourd'hui quelque chose de plus condensé, non, mais dire, de comparatif entre les candidats.
Jamais il n'a été aussi facile qu'aujourd'hui de voir ce que ces gens-là proposent par ailleurs. Mais quand vous avez une émission de 2h15 avec 7 gugus sur le plateau et qu'on est sous contrainte de temps et de format, on ne parle pas fondamentalement de sujets de politique publique complexes parce que c'est techniquement impossible. Moi, j'en suis pas surpris ni frustré. Il y a d'autres formats pour ça et c'est à chacun de faire son boulot, nous compris, électeurs.
Personnellement, après avoir regardé ce deuxième débat, je me suis dit, tiens, je vais essayer peut-être de résumer ce qui pourrait réunir justement l'ensemble des candidats à travers quelques grands thèmes. Il y avait restaurer l'autorité, il y avait garantir la sécurité, réduire la dépense publique et puis cette ancienne qu'on avait entendue en 2007 ou en 2012, je sais plus, je crois que c'était plutôt 2007, c'est-à-dire travailler plus pour gagner plus, parce qu'il est aussi pas mal question du temps de travail. Est-ce que ça, par exemple, ce ne sont pas des choses au moins qui émergent et qui permettent de se déterminer au moment du vote, Sylvain Kahn?
Hervé, prenons cet exemple de réduire les dépenses publiques. Mais qui y croit? Personne n'y croit. À chaque campagne électorale, même Hollande s'est fait élire dans son programme en disant « Je vais être enfin le président de gauche qui va réduire les déficits ». Je veux dire,
c'est pas la même chose.
Non, mais ça fait partie des choses que, dans les années 2000 et 2010, en tous les cas, un prétendant à la présidence de la République croit devoir dire pour être élu et pour avoir une réputation à l'international. Après, on sait très bien qu'ils ne le font jamais. On n'a pas le temps ici de dire pourquoi et comment. Mais
je ne comprends pas pourquoi Sylvain Kahn dit ça. Dans tous les autres pays voisins de la France, ça a été fait. Pourquoi dire que
Parce qu'en France, ça ne se fait pas.
Mais précisément, ces gens-là, à tort ou à raison, disent on a eu tort de ne pas le faire, il faut le faire.
Mais je constate que ça ne se fait jamais. La France est un des plus grands pays industriels et riches à être perpétuellement en déficit.
Ludivine, Martini.
Non, mais par rapport à ce que vous avez dit, Hervé, les thèmes que vous avez cités et les formulations que vous avez employées dans la bouche des candidats qu'on a vus hier, on peut les trouver parfaitement dans la bouche des gens qui sont au gouvernement aujourd'hui, aussi bien sur, excusez-moi de me répéter, mais sur l'autorité, sur l'identité, sur même le travailler plus, hein, parce que ce qui a été dit hier sur les enseignants, par exemple, ça avait été dit par Ségolène Royal, le présentiel, il faut que les enseignants travaillent plus longtemps, etc. Donc, par rapport à ce que disait Philippe Manière tout à l'heure, il y a une compétition, et donc il faut donner des points, etc. Mais justement, si on passait notre énergie à faire autre chose, revoir profondément, radicalement, la chose politique. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui le font au quotidien,
mais c'est pas incompatible.
De manière absolument invisible. Mais si, c'est incompatible, parce que pourquoi? Là, on nous dit que c'est ça, la chose politique, et c'est à ces gens qu'est donnée la parole publique. Enfin, c'est une confiscation, à mes yeux. Et sur, juste, je termine sur la primaire, parce que Daniel Cohn-Bendit, avec d'autres, avait lancé cette idée d'une primaire à gauche, et excusez-moi, je mets des guillemets sur la gauche. Mais c'était un piège, et d'ailleurs, il a fini par le reconnaître lui-même, c'était un piège, parce que beaucoup se sont dit, oui, c'est l'occasion, comme le disait Sylvain Bourmont, c'est l'occasion de débat, de discussion. Et en fait, c'était conçu tout autrement. C'était conçu pour que, au moment où François Hollande n'était pas encore à 4% dans les sondages, c'était pour qu'il sorte du chapeau. Voilà. Et que du coup,
ça a été conçu en 2007.
J'ai signé cette pétition qui a été initiée
par Daniel Cohn-Bendit,
qui
était l'un des signataires. Mais je veux dire, allez dire ce que vous venez de dire à Thomas Piketty. Je pense que.
Les motivations étaient diverses. Mais par exemple, chez Daniel Cohn-Bendit, qui a été un pilier, il l'a reconnu. Il fallait qu'il y ait une forme de légitimation conférée à François Hollande, qui sort du chapeau.
En 2006.
De toute la gauche.
C'est en 2006 la première primaire de la gauche.
Je voudrais juste que, moi je suis pas contre reconstruire la politique sur des bases un peu plus saines. Ça va prendre du temps. Là, on a une élection présidentielle qui arrive en 2017. Alors on peut choisir de s'en désintéresser. Moi je choisis de ne pas m'en désintéresser, c'est-à-dire que au point même, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je vais participer à cette primaire de la droite. Et pas seulement pour les raisons. Pas seulement pour les raisons des dépassements des frais de campagne, pas seulement pour les raisons des liaisons dangereuse de la Sarkozy, pour reprendre le titre du Monde d'hier, mais aussi pour tenter de lutter contre la mainmise du Front National sur la politique. Imaginez un instant ce que serait notre pays dans les 5 ans qui suivraient si le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017 opposait Nicolas Sarkozy à Marine Le Pen. Voilà, moi c'est cette situation-là que je veux à tout prix éviter. Et donc je vais faire tout ce qu'il faut pour essayer de l'éviter le plus tôt possible.
Je ne vais pas rouvrir le débat, mais me corriger moi-même. Je disais tout à l'heure que c'était un autre journaliste. En fait, c'est Laurent Geoffrin qui avait eu le courage d'interroger Jacques Chirac. Je voulais rendre à César ce qui est à César. Pardonnez-moi.
Non, mais vous êtes tout pardonné, Philippe Manière. Merci beaucoup à tous les quatre, Sylvain Kahn, Sylvain Bourmeau et Ludivine Bantini, d'avoir participé à cette émission. Était-il nécessaire de regarder le débat? En tout cas, je pense qu'il était nécessaire de vous écouter ce soir. C'était évidemment assez inattendu par rapport à ce que j'imaginais. C'était extrêmement intéressant. Voilà, j'ai trouvé. Un grand merci à toute l'équipe du Grand. Bah oui, je donne mes petites notes comme ça de temps en temps.
Moi, j'ai tenté dans la logique de la compétition.
C'est Fanny Richet.
Artistique ou technique?
Sauf que nous, on est dans la coopération.
Alors justement, on est aussi dans la coopération au grain avec Fanny Richet, Mathilde Barbier, Cyril Baer et Antoine Tricot-Isolte-Sicard. Émission réalisée par Viviane Noël avec à la prise de son Pierre Faucillon.